dans le cadre du sujet du royaume de Dieu.
In the, under the big heading of the kingdom of God.
Nous allons donc étudier tout ce week-end dans le livre d'Apocalypse, en fait, tout ce qui concerne les lettres aux sept églises.
And so we're going to talk about the letters of the that are written to the churches.
Et donc aujourd'hui, on n'a pas pris les églises dans l'ordre, puisque on va commencer aujourd'hui par l'église de Thyatire et Sardes.
So we're not going to take them in order, but today we're going to start with Thyatira and Sardis.
Et on va quand même se remettre dans le contexte quand même du livre.
So we'll begin with speaking about the context of the book.
Pour ensuite aller directement au chapitre 2 et 3.
So that we can go right into chapters 2 and 3.
Pour commencer notre enseignement sur les églises de Thyatira et Sardes.
To begin our teaching on the letters to the churches.
Donc on va lire ensemble le chapitre 1 pour voir le contexte.
So let's read together chapter 1 to get the context.
On va regarder donc le contexte d'une manière très rapide mais générale pour se mettre dans le bain du livre de l'Apocalypse concernant les lettres aux églises.
So we're just going to look at it really quickly, but just to kind of get into the spirit of what's being written.
Donc je vais lire le chapitre 1 en entier, suivez sur vos Bibles.
So Max will read completely in French all chapter 1.
Surtout ceux qui ont une Bible en anglais. Voilà. Donc révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Donc voici le contexte du premier chapitre qui ouvre donc le livre de l'Apocalypse.
So here's the context of this chapter that opens up the letters to the churches.
Alors, le livre de l'Apocalypse, les spécialistes le situent à la fin, en fait, du 1er siècle.
So the experts date this book towards the end of the first century.
On va essayer d'être plus précis, c'est autour des années 90, on va dire.
So they think it's around 90, 80.
Alors le texte nous apprend que Jean se retrouve donc à Patmos.
So John is in Patmos.
Alors Patmos c'est une île en fait dans la mer Égée.
So it's in the what is that? Is it the Adriatic? No.
Non pas
no.
L'Adriatique, la mer Égée.
What is that?
Bah, la mer en face de la Turquie.
Is it Aegean? Is that what we say in English?
Aegean? Je sais pas.
I don't know. Aegean. So it's the sea, it's right by Turkey. Whatever that sea is, that's where it is.
Alors peut-être qu'il se trouve en fait exilé ou déporté, car en fait cette île, qui était une île romaine, est très certainement une île où on déportait les gens, où on exilait les gens.
So it was they think that it was like a prison type island where they put people that were deported or exiled.
On n'en est pas sûr à 100% parce que tous les historiens ne sont pas d'accord.
It's hard to say exactly for sure because not all historians agree.
Mais quand même dans le texte, il dit à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
But it does say in the text that he was there because of the word of God in his testimony.
Donc on peut penser quand même qu'il a vraiment été dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu. Peut-être que c'était aussi une période qui était assez trouble.
And so that's why we can come to the conclusion that that's why he was there and it was in a time that was filled with a lot of troubles.
Donc il est très probable aussi qu'il ait été donc exilé sur ou déporté sur cette île par les Romains.
So chances are he was exiled or at least deported to that island.
Alors comme je disais, Patmos est en face donc des côtes de l'Asie Mineure, c'est-à-dire de l'actuelle Turquie.
So it's on the coast of Asia Minor, which is Turkey.
Voilà.
Today.
Donc je vous ai préparé deux petites cartes que vous allez faire circuler entre vous. Enfin, c'est les mêmes cartes en fait, c'est pour vous montrer où sont déjà les sept églises.
And so Max is going to pass out a couple of maps so that you can
donc,
see where it is.
Donc on retrouve Patmos ici, cette petite île.
That's where Patmos is.
Voilà, donc, je vais faire pratique. So. Et ensuite, ici, vous avez la liste des églises, des sept églises.
And here you have all of the seven churches.
Et qui sont situées après sur la carte ici, sur donc la Turquie continentale.
And then you can see how they are situated on in the reference to Turkey today.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est Thyatira et Sardes, donc c'est l'église 4 et 5.
So today we're talking about Thyatira and Sardis, so it should be numbers 4 and 5.
Donc on apprend aussi dans le texte donc alors déjà Jean, c'est vrai que un petit mot sur Jean parce que
so before we get too far in the text let's talk about John the author.
Il est vrai que dans tout le livre de l'Apocalypse quand on cite Jean, c'est pas si c'est Jean l'apôtre ou Jean Jean était un prénom très connu dans l'Antiquité donc
And it's true that when you just say the name John like that even when you quote it from the Bible it's not always clear who we're talking about right off the bat.
Personnellement, moi je pense que c'est vraiment Jean l'apôtre parce que quand on lit entièrement l'Apocalypse, on voit que c'est la même puissance finalement des paroles qui sont dans l'évangile de Jean.
And what convinces Max is the way that the style of writing is and you really see the same writing style and the power that's in also John's other writings.
Et puis qui peut avoir une autorité humaine pour se dire moi Jean votre frère donc j'ai quand même l'impression c'est plus qu'une impression mais une certitude que c'est vraiment Jean l'apôtre qui a écrit.
And who else could write with this kind of authority to say me John your brother in tribulations if it wasn't actually John and with the certitude that it's really John the apostle.
Alors le contexte aussi dit qu'au verset 10, Jean est saisi, ou ravi, ça dépend des textes, le texte que vous avez, est saisi par l'Esprit au jour du Seigneur.
And so, depending on the version that you have, it says that I was in the Spirit on the Lord's day.
Alors dans ma version, alors moi je lis la version Louis II pour une raison très précise, mais vous, que vous connaîtrez tout à l'heure.
And so Max is reading from the Louis II 1910 oui. edition.
Et dans ma version, il est écrit ravi. Bon. Peu importe, donc c'est qu'il soit saisi ou ravi par l'Esprit le jour du Seigneur, donc c'est-à-dire un dimanche.
And so in Max's version, it would say like raptured. And so he means like he was brought up or brought into this as, on the day of the Lord.
Et dans cette introduction, Jésus en fait lui demande d'écrire ce qu'il voit dans un livre et de l'envoyer donc aux sept églises.
And so on this day, the Lord tells John to write down these messages to send to all of these churches.
Donc le livre et donc aussi les sept les lettres qui sont à l'intérieur ne sont pas finalement adressées qu'aux seuls anges des églises, des anges on verra tout à l'heure de quoi on parle exactement, mais aussi aux assemblées plus largement aux églises et de l'époque et aussi d'aujourd'hui.
And so it's not that he was only writing to these seven angels, and we're going to see in a minute what that means, but also to those congregations that were in those places. Not to mention that it extends to us today.
On peut citer d'ailleurs dans Apocalypse deux versets où justement on éclaire là-dessus que c'est vraiment aux églises qu'on parle et pas seulement aux églises de Thyatire ou de Sardes en particulier, mais aussi c'est le message est pour nous. Par exemple, dans les lettres aux églises, très souvent, on fait, je crois à chaque fois, on termine en fait. Le passage avec que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
And so one of the proofs for understanding that this isn't just to one or two people, but to the entire congregations, is that with each letter that Jesus writes, you have that phrase, "He who has ears, let him hear what the Spirit says."
Alors qu'à chaque fois, c'est bien une lettre à une église particulière. Aujourd'hui, Thyatire et Sardes, mais à la fin, il termine toujours par ça.
Even though it is still individual letters written at specific churches, it still leaves that open-ended conclusion.
Et également, pour souligner encore plus ça, si on va à l'épilogue d'Apocalypse, c'est-à-dire tout à la fin d'Apocalypse, chapitre 22, verset 16.
And so it says it very similarly in the end of the epilogue of Revelations in Revelations 22, verse 16. Mm-hmm.
Il est écrit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
He says, I, Jesus, have sent my angel to testify to you of these things in the churches.
Donc encore une fois, on souligne donc bien ce contexte des églises.
And so there we see one more time in this context we're speaking of several churches.
Toujours dans le chapitre 1, du verset 12 au verset 15, donc Jean se retourne et voit Jésus. Avec une certaine apparence.
And so in verses 12 through 15, John turns around and he sees Jesus with a very special appearance.
Une apparence qu'on peut dire qu'il est en fait finalement il est dans sa gloire.
An appearance where we see his glory.
C'est au moins le minimum qu'on puisse dire.
That's really the minimum that we could say.
Il faut savoir que cette apparence-là, c'est pas la première fois qu'on le voit dans la Bible.
And this appearance that we see is not the only time that it's mentioned.
Aussi dans l'Ancien Testament, en Daniel.
Actually, we see it in the Old Testament, in the book of Daniel.
Dans Daniel, donc chapitre 10.
In Daniel, chapter 10.
Chapitre 10, versets 5 et 6.
Daniel chapter 10 verses 5 and 6.
On peut même commencer au verset 4.
And we could even start with verse 4.
Alors il est écrit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais, voici. Il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du Paz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude.
Now on the 24th day of the first month I was by the side of the great river that is the Tigris, and I opened my eyes and looked, and behold, there was a man clothed in linen, whose waist was girded with the gold of Uphaz. His body was like beryl, his face was the appearance of lightning, his eyes were torches of fire, his arms and feet were like burnished bronze in color, and the sound of his words like a multitude.
Alors, que nous dit aussi le texte? Il nous dit aussi que Jésus a dans sa main sept étoiles.
And the text also says that Jesus has in his hand seven stars.
Et on nous dit que ces sept étoiles sont sept anges.
And we find out that these seven stars are seven angels.
On sait aussi que les sept chandeliers sont les églises, donc ça c'est clair.
And so we also find out that the seven candlesticks are seven churches.
J'en reviendrai.
He'll come back later.
Mais au niveau des sept anges, c'est quoi ces sept anges?
But coming back to the angels, what does he mean by angels?
Alors, au départ, on pourrait se dire, bon, prenons le mot ange tel qu'il est.
First, we talk about, well, let's just look specifically at the word angel.
Le problème qui se pose, c'est que quand on lit, par exemple, juste au chapitre 2 d'Apocalypse.
And the problem that we find ourselves is when we just read this one chapter or this one verse 10.
Alors, chapitre 2, verset 4, je veux dire, le verset 4.
Chapter 2, oui. Verse 4.
On lit par exemple, souviens-toi donc dont tu. Non, c'est pas le verset 4, il est un peu plus haut. Alors, il dit en fait finalement au fameux ange qu'on est en train d'étudier là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
And so when he says to this specific angel, what I have against you is that you have lost your first love.
Donc si c'était un ange de Dieu, ça serait un peu bizarre de faire cette affirmation, donner ce genre de recommandation, en tout cas un ange.
So if we were actually speaking about an angel, it would really be strange that an angel would lose their first love.
Est-ce qu'on peut penser éventuellement que c'est un ange gardien de l'Église, mais ça revient à la même chose. C'est-à-dire que, voilà, comment peut-on dire, tout au long des lettres, il n'y a pas que sur ce verset-là, comment peut-on dire, si c'était que à l'ange de, un ange de Dieu, de lui dire de tels, finalement, avertissements, de tels reproches vis-à-vis de certaines choses qui ne vont pas bien dans l'Église.
Et some have suggested maybe it's like a guardian angel, but the same problem still persists. Is how can you say that to an angel?
Et d'ailleurs, écrire à un ange, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus parle directement à ses anges, il n'y a pas besoin d'aller écrire quoi que ce soit.
And then write a letter to an angel, that's really strange. Jesus, he just speaks to his angels.
Alors comment peut-on s'en tirer alors dans le texte là pour comprendre un peu les choses?
So then how do you make heads or tails of it?
Alors, il faut savoir qu'en grec, le mot ange veut dire aussi messager.
You must understand that in Greek, the word for angel also means messenger.
On peut prendre par exemple quand on a l'ange Gabriel qui vient voir Marie pour l'avertir de la naissance future de Jésus, le Messie. Finalement, il fait quoi? C'est un messager. Il arrive de la part de Dieu pour apporter un message. Donc là, on peut voir aussi ce mot ange en tant que messager.
And you can take the example of when the angel was sent to tell Mary about the birth of Jesus. There you have an angel that was sent as a messenger to give this message.
Voilà, mais un messager ici humain.
But now we're talking about a human messenger.
Donc un messager humain qui sera un dirigeant à la tête d'une église, ça peut être qu'un pasteur.
And so a leader in the church who is a messenger from God, who speaks to the church the message of God, we're talking about the pastor of the church.
D'ailleurs, on apprend dans la Bible que la vocation de pasteur, l'appel à être pasteur.
And so also in the Bible we talk about the calling of a pastor.
C'est le premier moyen par lequel le Saint-Esprit passe pour enseigner l'église en fait pour qu'on devienne des disciples de Jésus.
Is the first way in which the Holy Spirit moves in the lives of people to bring them into a deeper relationship with him.
Donc le Seigneur demande donc à Jean d'écrire donc ces lettres pour le pasteur de chaque église.
And so Jesus is telling the pastors of the church that this is a letter for each one of those churches.
La lettre étant adressée pas seulement au pasteur mais aussi à l'église comme on l'a vu précédemment.
And so the church is not just to the pastor, but to the entire church, as we've already said.
Et pour rajouter, c'est pas que à l'église de Thyatira et de Sardes, mais pour nous aussi aujourd'hui.
And it's not just for them, those specific historic churches, but it's also for us today.
Concernant donc les sept chandeliers que j'ai dit tout à l'heure, qui est allé donc que j'ai dit, le texte dit que ce sont les sept églises.
And so concerning those seven candlesticks that the text designates as being the churches.
On peut peut-être extrapoler aussi un peu en disant que toutes les églises ont finalement peut-être un chandelier.
And so you can even extrapolate this idea of thinking about it as yes, every church has its light.
Parce qu'on a quand même cette vision que dans le texte qu'on a Jésus qui marche au milieu de chandeliers, donc comme quelqu'un qui gère son église finalement.
And so you really have Jesus who's walking in the midst of the light. It's him that is guiding his church.
Alors, d'accord, dans la vision, il n'y a que sept chandeliers, mais est-ce que dans la réalité, il n'y a pas une multitude de chandeliers, sachant que chaque église
sure, there's,
a son chandelier.
There's the seven that are in this text, but of course, isn't it much larger than that of these bigger lights? And can't you even say that each church has its own light?
Alors le texte ne le dit pas, mais qu'est-ce que ça pourrait représenter ce chandelier? Donc on visionne un chandelier, bon voilà, on voit les bougies, les lumières.
And so the text doesn't exactly say what that means, but we can imagine what that means, this light that's within each church.
On peut penser que ça peut montrer finalement que c'est la lumière apportée par l'Église au monde finalement.
We can even look at it to say that it's the light that the church is bringing to the world.
Donc la lumière, bien sûr, de Jésus, sa
that,
vie.
The light of Jesus in his life.
Donc voilà pour le contexte.
And so here we are for the context.
On va attaquer donc le chapitre 2 donc au niveau du verset, parce que moi je fais simplement Thyatira et ça, donc à partir du verset 18.
So let's get into the churches. We're going to look at the letter to Thyatira and to Sardis, which is beginning in chapter 2 verse 18.
Parce qu'on peut dire au niveau des lettres à ces églises.
And so what we can say about these various churches.
D'ailleurs, pour chaque église, pour les sept, c'est la même structure.
For each one of these churches, we find the exact same structure.
On a toujours une lettre qui commence par écrit à l'ange de l'église qui est à tel endroit.
It starts by write to the church that is found in whichever locality.
Et voici ce que dit en fait Jésus.
And here's what Jesus says.
Jésus qui sera en fait noté de différentes manières.
Jesus who is noted in a different way.
Ensuite, on a une seconde partie, on peut dire comme ça, où Jésus dit ce qui va bien, ce qui va pas bien dans les églises.
And next we have a part where Jesus talks about what is going right and what is going wrong in each church.
Ensuite, une troisième partie qu'on pourrait dire que c'est là où Jésus donne des recommandations ou des avertissements.
And then there's the next part where Jesus gives his recommendations or even his warnings.
Ensuite, on a les récompenses pour les vainqueurs.
Next, we have the rewards for the winners.
Et ça termine, la lettre termine comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises.
And then finally, what the churches say to, what the Spirit would say to each church.
Voilà, donc je vais lire déjà entièrement la lettre pour l'église de Thyatira. Et puis je reviendrai verset par verset.
So first of all, Max is going to read through the entire letter, just to Thyatira, and then he'll come back and comment on each part.
Alors, écrit à l'ange de l'église de Thyatira. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais l'ajouter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon mes œuvres. À tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme ils appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il me pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, beaucoup de choses à dire.
Lots to say.
Commençons par Thyatire.
Let's talk about Thyatira.
Alors, ce que nous savons de cette ville, finalement,
what we know about this church, or this city, I'm sorry.
C'est que c'est une petite ville qui vivait finalement principalement que du commerce de l'étoffe et de teinture.
So it was a city that lived mostly from the commerce of textiles and dyes.
Et d'ailleurs, la Bible nous en donne un témoignage parce que dans Actes chapitre 16, versets 13 à 15, on en parle.
And so we actually have a testimony of this in Acts chapter 16, verses 13 and 15.
Donc le jour du sabbat, nous... Oui, c'est chapitre 16, versets 13 à 15.
16, 13 to 15.
Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances.
13. Then on the Sabbath day we went out to the city of to the riverside where prayer was customarily made, and we sat down and spoke to the women who met there. Now a certain woman named Lydia heard us, and she was a seller of purple in the city of Thyatira, who worshipped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul, and when she had heard and her whole household were baptized, she begged us, saying, if you have judged me to be faithful in the Lord, come to my house. So she persuaded us.
Donc on apprend bien finalement que cette église de Thyatire existe bien.
And so we learned that this Thyatira actually did exist.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est que cette fameuse femme qui s'appelle Lydie et qui habite à Thyatire, elle est donc marchande de pourpre, donc teinturière.
And so we see that this this gal, she was a seller of purple, which was a dye that was sold from Thyatira.
Et qu'elle a été touchée par le Seigneur.
And that she was even touched by the Lord.
Donc probablement, peut-être, hein, on ne peut pas le savoir à 100% parce que la Bible ne le dit pas, mais c'est peut-être dans sa maison qu'a commencé l'église de Thyatira.
And so it's quite possible, we don't know for sure because the Bible doesn't say, that she was from Thyatira. Sorry, I messed that up. Yes, sorry.
Yeah, it was in our
house. Oh, sorry, my bad. Yes, sorry. That the church was probably in her house.
Nous savons également que Thyatire a bien existé parce qu'il y a un géographe donc grec qui s'appelle Strabon et un romain aussi Pline l'Ancien qui ont vécu au 1er siècle qui dans leur texte en parle.
And so we also know from extra biblical accounts from Greece, I'm sorry.
Strabon.
Oh, Strabon from Greece.
Pline l'Ancien.
And then Pliny the Ancient in the first century also wrote about it.
Et donc aujourd'hui, qu'en est-il de Thyatire? En fait, elle a complètement disparu à partir du 10e siècle.
But today it has completely disappeared, and that since the 10th century.
Voilà, aujourd'hui c'est un simple bourg turc appelé donc Akhisar.
And so today it's just a little tiny village in Turkey called Akhisar.
Alors quand nous commençons à lire notre texte, qu'apprenons-nous? Voici ce que dit le Fils de Dieu.
And so when we read this text, what do we first learn?
Donc voilà comment se présente Jésus pour de la lettre de Thyatira.
And here's how Jesus presents himself for the church at Thyatira.
Et d'ailleurs, le Fils de Dieu n'est cité qu'une seule fois dans l'Apocalypse à cet endroit-là.
He presents himself as the Son of God, and this is the only time that we see that phrase in the whole book of Revelation.
Donc au verset 19,
in verse 19,
en suivant donc la structure du texte,
following the structure of the text,
regardez ce qui est bien dans cette église.
We see what's going well with this church.
Alors il dit, je connais donc tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières.
He says, I know your love, your service, your faith, your patience, and as for your works, the last are more than the first.
Donc ce qu'on remarque, c'est quand même dit d'une manière assez neutre.
What we see is it's actually said quite neutrally.
Jésus ne dit pas ça dans une grande explosion de joie comme si c'était magnifique, que cette église était fantastique.
So it's not like he's saying this with a lot of joy and just exploding all over and this is amazing. And...
Voilà, il reconnaît quand même que pour ces choses-là, en tout cas, ça a l'air de tenir la route.
But it's more like he recognizes that these things are actually keeping in tune with what they should.
Et d'ailleurs, Jésus, le verset suivant enchaîne tout de suite en disant mais.
And yet, the very next verse, he connects it with the conjunction but.
Alors, mais quoi? Mais ce que j'ai contre toi.
But nevertheless, this is what I have against you.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il cite en premier donc cette prophétesse, donc soi-disant prophétesse.
And so he talks about this prophetess or a supposed prophetess,
en tout cas dénommée Jézabel.
Who is called Jezebel.
Alors on voit bien que c'est pas son nom en fait. On connaît pas le nom vraiment de cette soi-disant prophétesse.
As we read this, we come to the conclusion it's not really her name. We don't know what her true name was.
En fait, le Seigneur utilise en fait des personnages qui ont vraiment vécu dans l'Ancien Testament.
But actually, he's using people that really lived in the Old Testament times.
Comme il a fait aussi dans les précédentes lettres que on enseignera cet après-midi.
Just like he did in the preceding letter that we'll talk about later.
Comme que, par exemple, quand il utilise Balaam pour expliquer certaines choses.
When he talks about Balaam and how he'll explain certain things through that.
Voilà. Donc pourquoi appelle-t-il cette femme-là, cette soi-disant prophétesse, Jézabel?
So why talk about this woman, Jezebel, like
Alors,
this?
Qu'apprend-on dans l'Ancien Testament, justement, de cette fameuse Jézabel?
And so what does the Old Testament have to teach us about Jezebel?
Donc, elle est la femme, en fait, du roi d'Israël, Achab, ou Achab, suivant les versions que vous avez.
She is the wife of the king Ahab.
Donc, si vous voulez lire son histoire, c'est dans Un roi et deux rois.
If you want to read a story, it's in the end of 1 Kings, the beginning of 2 Kings.
Alors, Jézabel et Achab étaient en fait des grands idolâtres.
And so, Jezebel and Ahab were great idolaters.
Ils n'adoraient pas donc leur dieu, mais des dieux, des faux dieux en fait, tels que Baal, Astarté.
So they were actually polytheists who worshipped Baal and Astarte.
Et non seulement ils souillaient donc leur propre peuple qui les suivait.
And they didn't just soil their own people.
Mais pour ceux qui résistaient et qui étaient toujours fidèles à Dieu, tous les deux les persécutaient, aussi bien Jézabel que Achab.
But for anyone that stayed faithful to God, they were persecuted.
Ce qu'on apprend dans le texte.
And what we learn in the text
de Thyatira, c'est qu'elle enseigne et égare donc les serviteurs à la débauche sexuelle.
Is that they taught people to follow sexual morality?
Parce que suivant alors les livres que vous avez, alors, vous avez peut-être le terme fornication, peut-être le terme. Moi j'ai le terme au verset 20. C'est écrit à l'impudicité, par exemple.
And so there's different words that are translated. Sometimes it's immorality. And sometimes it's fornication.
En fait, derrière ce terme, il y a un terme que vous avez vu déjà à l'église lors de la prédication de Max sur 1 Corinthiens.
And there's another word that can be used that we talked about in a teaching in 1 Corinthians.
C'est le terme grec porneia qui veut dire en fait tout ce qui est relation sexuelle illicite qui est en dehors du mariage chrétien.
Which is the original word, more of a transliteration of the original word, which is porneia.
Donc, il y a ce problème-là. Donc, qu'elle amène finalement les fidèles à se souiller, sexuellement parlant.
And so she's doing just that. She is leading the people to soil themselves with sexual morality.
Et elle incite aussi, par ces faux enseignements, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est des faux enseignements, aussi à manger des viandes sacrifiées à des idoles.
And so, she even goes farther with it, with her false teachings, and we've got to call it what it is, it's false teachings, to incite people to eat food that's been sacrificed to idols.
Et donc elle le fait sans discernement en fait.
And so she does it without discernment.
Parce que comme Mike l'a enseigné donc il y a 2 semaines je crois dans 1 Corinthiens 8.
And so as we looked at in 1 Corinthians 8.
Pour tout ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, Paul en parle déjà.
And so anything that's concerned already about meat sacrificed to idols, it was already covered by Paul.
Et d'ailleurs, il explique bien, et donc je vous renvoie au message de Mike, justement, sur les viandes sacrifiées aux idoles, il parle bien de la relation entre la connaissance, la conscience faible, l'amour fraternel.
And he wrote everything out really clearly, and he explained all the difference between just knowledge and love and how to live in these things.
Et donc il y a tout un contexte pour manger ou ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles.
And so everything is there so that we would know what we can eat and not eat concerning food sacrificed to idols.
Alors que là c'est pas le cas, c'est sans discernement, c'est pour ça que là réside un péché.
And this however is without any kind of discernment, and that's really why we're talking about sin.
Parce que déjà cette fameuse soi-disant prophétesse elle-même pêche parce que très certainement elle en mange devant tout le monde pour montrer que elle peut en manger.
And as she is eating, it's really a sin because she's eating and causing others to follow in her ways.
Et donc elle pêche. Et puis tous les autres aussi qui la suivent sans aucun discernement, ils pêchent aussi parce qu'ils ne se fient pas finalement à une vraie conscience sur les choses qu'ils font.
And so those that follow in her sin, and they sin as well because there's no discernment, and they just doing and following suit with what she's teaching and showing.
Voilà, donc au verset 21, que je vais vous relire, voyons voir ce qui est dit. Jésus dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.
And so verse 21, and I gave her time to repent of her sexual morality, and she did not repent.
Donc on voit ici la patience finalement et la miséricorde du Seigneur qui veut qu'elle se repentisse, mais elle ne veut pas.
And so you see the patience and the compassion of the Lord who wants her to repent and gives her time for it, but she won't.
Et Jésus dit directement, il dit au verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande détresse, s'ils ne se repentent pas de ses œuvres à elle.
And so, verse 22, and indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into a great tribulation until they repent of their deeds.
Ce qui est en fait un verset qui marque le châtiment.
Which is a verse that talks about her punishment.
Pour ceux qui ne veulent pas donc se repentir.
For those who do not want to repent.
On dit également, juste après,
and we also see, just right afterwards,
Jésus dit, je ferai mourir ses enfants.
Jesus says that I'm going to kill her children.
Alors ici, c'est vrai que le verset, on peut le lire de deux manières. Mais bon, moi, je pense que la deuxième manière que je vais vous donner est peut-être plus correcte que la première. La première, c'est de penser que, étant donné que cette femme-là a des comportements, incite à des comportements sexuels illicites, est-ce qu'elle a pu avoir des rapports sexuels avec des fidèles qui la suivent et avoir eu physiquement des enfants?
And so one of the ways is because she was inciting these people into sexual morality, she may have had children through those relations.
Mais quand même, quand on lit bien les choses par rapport à tout le texte, quand même, on se rend compte plutôt que là, on est en train de parler de ses disciples, en fait.
But when you look really closely, it would appear that textually speaking, we're talking more about disciples of her teaching.
Parce que pourquoi faire mourir ses enfants? Peut-être que ses enfants deviendront des fidèles chrétiens très attachés au Seigneur. Donc pourquoi faire payer ses enfants alors que les responsables, ce serait elle et ceux qui la suivent.
And so why would Jesus attack these children who have been born? They haven't done anything yet, and you know, why would he make them pay for what she and her disciples have done?
Donc ici, le verbe mourir serait plus approprié pour une mort spirituelle, c'est-à-dire la perdition.
And so really, the word would be more appropriately applied to those that are following her.
Et Jésus donc ici insiste bien, il rappelle bien que c'est bien lui finalement le juste juge et qu'il jugera chacun d'eux selon leurs œuvres parce qu'ils ne se repentent pas.
And so Jesus is the good judge, and so he will judge them each one according to their works because they will not repent.
Au verset 24 et 25.
And so verses 24 and 25.
Que je vais relire, comme ça on se remet un peu en tête. Donc, à vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ceux que vous avez, retenez-le jusqu'à que je vienne.
Now I say to you and to the rest of Thyatira, as many of you who do not have this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I will put on you no other burden, but hold fast for what you have till I come.
Donc on voit dans cette église de Thyatire qu'à côté de ces abominations de Jézabel et de ses disciples.
And so we see next to these things that are going on, these abominations.
Il y a un autre groupe finalement qui résiste à tout ça, qui lutte face à ces faux enseignements.
There are those that resist and that actually struggle against and fight against those false doctrines.
Alors Jésus ne leur dit pas de fuir ou explicitement de jeter dehors cette Jézabel et ses disciples.
Jesus doesn't say to run away from her or cast her out.
Mais on comprend mieux que c'est Jésus qui va s'occuper finalement de les châtier.
And so that's why we understand that Jesus is going to take her chastisement in his own hands.
Alors, le cas de Thyatire n'est pas un cas général.
Now, Thyatira's case is not a general case.
Là, je pense que ce reste-là a eu cette révélation-là de ne pas fuir et de ne pas la mettre à la porte. Mais c'est juste un contexte très particulier.
And so I think that the elders of the church would have realized this and not have cast her out.
Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible aussi enseigne que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une assemblée, il faut tout de suite se pencher dessus et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et s'il faut mettre un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, voire même une exclusion, il faut le faire avant que tout le troupeau soit atteint d'un faux enseignement, par exemple.
And the reason why he says that is because it does... Clearly, the Bible does clearly teach in other passages that when something is not going right, you have to address the problem, and then after one or two, three warnings, eventually there will come a time when you have to kick the person out.
Et d'ailleurs, Jésus souligne bien que c'est un cas un peu particulier parce qu'il leur dit bien, je ne leur mettrai pas d'autres fardeaux.
And Jesus also underlines the fact that this is a special case when he says that I will not put on you any other burden.
Parce que c'est déjà, on voit bien, un fardeau très lourd.
And already it's a very heavy burden.
Voilà, il nous demande finalement de persévérer, de tenir bon la vérité jusqu'à son retour.
And so he's telling them to persevere and to continue until his return.
Et ensuite, que trouvons-nous dans le texte? Entre le verset 26 à 28.
And so what else do we see in the text, verses 24 and 25?
Aux vainqueurs, les récompenses.
To the those who vanquish, their recompense.
Donc je vais le lire. Donc à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises.
And he who overcomes my and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations, and he will rule them with a rod of iron, and they will be dashed to pieces like the potter's vessels. As I also have received from my Father, I will give them the morning star.
Donc là, finalement, Jésus nous enseigne qu'il faut garder ses œuvres.
And here we see that Jesus tells us to keep his works.
Ses œuvres qui sont bâties, bien sûr, sur l'amour fraternel.
His works that are built upon brotherly love.
Et ce qui est magnifique, c'est que la récompense, une des récompenses, parce que finalement, on verra avec toutes les autres lettres qu'il y a beaucoup de récompenses.
And so we see one of his recompenses, and it's filled with rewards.
Donc une des récompenses ici, c'est d'avoir le pouvoir sur les nations.
Is to have power over the nations.
Et donc on apprend que, on peut le lire dans 2 Timothée aussi, chapitre 2, verset 12, mais finalement nous sommes en fait co-héritiers avec Christ, et il nous fait participer finalement à sa gloire.
And so in Timothy it talks about this, but we see that we have a part of the glory of Christ.
Et puis ce que je trouve beau, même si c'est un peu mystérieux, c'est qu'il nous donnera, il dit, je lui donnerai l'étoile du matin.
And what I find really beautiful in this is that he will give the morning star.
Alors, si on va dans Apocalypse chapitre 22 verset 16.
And so if we go to Revelation 22 verse 16.
Il est écrit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester donc ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
I, Jesus, have sent my angel to testify to you of these things in the churches. I am the root, the offspring of David, the bright and morning star.
Donc en fait, je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire que Jésus est en train de nous dire qu'il va se donner lui à nous.
And so Jesus saying that he's given them the morning star, he's saying that he's about to give himself to us.
Et c'est vrai que c'est assez mystérieux, mais c'est vrai qu'aussi on apprend quand même dans la Bible que Jésus est en nous, nous sommes en Jésus aussi.
And this seems a bit mysterious, but we also read in the Bible how we are in Jesus and Jesus is in us.
Alors pourquoi Jésus est vu comme l'étoile brillante du matin?
And so why is Jesus pictured as the bright morning star?
Donc ici il y a beaucoup d'interprétations innombrables.
There are really numerous interpretations possible.
Je vais vous donner la mienne. Hein.
So,
il y en a une parmi les milliers d'autres.
And so of all that Max read, he's going to give you the one his that he likes best.
Alors c'est vrai que d'une manière, on va dire, factuelle,
and it's true in a factual way.
Cette étoile du matin, en fait, c'est Vénus, hein, c'est la planète Vénus.
And so we know that morning star is the planet Venus.
Oui, d'ailleurs, qu'on appelle aussi, je ne sais pas dans le monde entier, mais en tout cas en France, on l'appelle l'étoile du berger.
Oh,
comme
and
par
so,
hasard.
I don't think we say this in English, but in French they call it the shepherd star. Have you heard of it?
Et en fait, c'est une étoile qui se voit en fait entre la fin de la nuit et le lever du jour.
And so it is that star that we see right towards the end of night and the beginning of the morning.
Donc moi, ce que j'ai pensé, mais c'est une interprétation comme une autre, c'est que ça représente un peu en fait comme si cette étoile-là avait vaincu finalement les ténèbres, donc elle sortait tout juste des ténèbres, et elle annonce en fait l'arrivée de la lumière, parce que le soleil encore n'est pas sorti, on voit pas l'horizon, on voit que ces rayons en fait qui viennent toucher donc cette étoile, cette planète en fait, et qui vient briller plus que toutes les autres étoiles du matin.
And so you can look at this as saying it's like it's coming out of the darkness and it's now entering into the light as it is making that transition and we are making that transition.
Comme si c'était en fait le retour de Christ et que and il annonçait finalement la lumière éternelle.
And so you can even look at it as the coming of Christ, as the new day, and this new time that's coming upon us.
Voilà, c'est ça qui est beau. Donc c'est une interprétation, ben voilà, comme une autre.
And what a beautiful interpretation that is, but it's one amongst many.
Donc voilà pour l'église de Thyatira.
And this is what we could say about Thyatira.
Ce que je peux vous proposer, si Mike est d'accord, est-ce qu'on peut faire 2-3 minutes de pause peut-être?
You guys want to take a couple minutes, a little tiny pause?